je vais pas être long. Je voudrais faire une continuité de un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu dimanche dernier. Je vais pas y revenir. On s'est arrêté sur le fait, c'est Jésus qui a dit de prendre garde à nous-mêmes. Et on a vu que notre premier ennemi, c'était pas le diable, c'était nous. Alors, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais je voudrais introduire par la dernière question que j'ai posée en terminant. Alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, je ne vais pas vous demander la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un croyant? Qu'est-ce qui peut arriver de pire pour un croyant? Voilà. Alors, je suis sûr que la plupart de vos réponses seraient perdre la foi ou abandonner la foi. C'est une réponse. Oui, c'est une réponse. Effectivement. Hein? Quoique, il faut faire la différence entre perdre la foi et abandonner la foi. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas tout à fait pareil. Je voudrais ce matin partager avec vous ce qui, à mon sens, et on va le voir ensemble, est le pire pour un croyant. Et les chants que j'ai choisis ce matin allaient un petit peu dans ce sens-là. Je ne les ai pas choisis par hasard. On va lire quelques versets en introduction. On va parler d'un homme, justement, à qui il est arrivé pour moi le pire. Et vous allez comprendre où je vais en arriver. Cet homme, on en parle ce matin. On en a parlé avec les jeunes hier soir. On en parlera encore cet après-midi. C'est Samson. Connaissez un petit peu son histoire, hein, Samson, notamment le fameux épisode avec Delilah, ce qui lui est arrivé. Hein, on va pas tout lire, je prends juste ce qui m'intéresse. Juges chapitre 16, verset 18. Juges chapitre 16, verset 18. Donc là, on arrive à la fin, au dénouement de l'histoire, où il dit ceci: Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, voyez, hein, n'ouvrons pas notre cœur à n'importe qui, n'importe quoi, hein, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et notez bien ce verset 20. Elle dit alors: Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'ai du mal à dire Amen, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Et vous avez ici ce qui pour moi est le pire pour un croyant. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. J'ai choisi Samson parce que Samson, c'est le type même du croyant. Ne serait-ce que par la signification de son nom. Vous savez, je vous apprends certainement rien ce matin, que Samson, ça signifie petit soleil. Et en Jésus, nous sommes des petits soleils. Hein. Des fois, on dit de certains, eh ben, ce n'est pas une lumière, lui. Hein. Vous voyez? Mais en Jésus-Christ, nous sommes la lumière, justement. Hein. Et l'apôtre Paul parle de ces flambeaux que nous sommes devenus qui brillent dans le monde. Hein. Nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ. Nous ne sommes pas la lumière, mais nous reflétons la lumière de Christ. Vous voyez? Et quelque part, Samson, c'est un petit peu l'image du croyant. Vous voyez? Et pourtant, celui qui s'appelait Petit Soleil a cessé de briller. Et il a cessé de briller. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré de lui. Et je crois que c'est important de réaliser que le pire pour un croyant, le pire pour un croyant, c'est pas de tomber malade. Parce que quelque part, on peut passer par la vallée de la maladie. Hein. Je pense à l'apôtre Paul qui va dire à Timothée: J'ai laissé Trophime malade à Milet. Voyez, le pire pour un croyant, c'est pas de connaître la persécution. Parce qu'on sait que Jésus a dit, hein, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas ça le pire pour un croyant. Hein. Le pire pour un croyant, et c'est ce qui est arrivé à Samson, c'est qu'à un moment donné, Dieu se retire. À un moment donné, la présence de Dieu se retire de nous. Et j'allais dire, permettez-moi cette expression, le pire du pire, c'est qu'il s'en est même pas rendu compte. Parce que vous avez fait attention, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et ce que je voudrais vous montrer ce matin, c'est que Samson, c'est pas un cas unique. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, bon, il prend Samson, d'accord, mais avec ce qu'il a fait, bon, c'est compréhensible. Mais vous allez voir que plus d'une fois dans la Bible, et je vais faire travailler Esther ce matin, hein, mais plus d'une fois, vous avez des textes où il est dit, Dieu se retira. Dieu se retira. Et je crois que si c'est là, c'est quelque part pour que ça nous fasse réfléchir, pour nous amener à réaliser que la présence de Dieu, mais c'est ce que nous avons de plus précieux. Et quand on chante des chants comme le dernier ou comme celui qu'on a chanté tout à l'heure, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, hein, mais on ne chante pas n'importe quoi. On chante ce qui pour nous est le plus important, la présence de Dieu. Parce que quand elle n'est plus là, on n'a plus rien. Hein. Il reste que du religieux, que du creux, que du vide, hein, que, voyez, il reste rien, quoi. Hein. Alors, rappelez-vous, par exemple, je lis pas ce texte parce que vous le connaissez, l'église de la Odyssée. Ben, vous avez un parfait exemple de Dieu qui n'est plus là. Voilà. Puisque le Seigneur va dire à un moment donné, hein, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce verset, ce qui est surprenant, et c'est que souvent on s'en sert dans une réunion dite d'évangélisation. Mais c'est à des croyants que c'est dit. Vous imaginez, à des croyants, à une église, Dieu dit, je me tiens à la porte. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y est plus, ça veut dire qu'il s'est retiré. Et le pire, c'est que comme Samson, ils ne s'en sont même pas rendus compte, puisqu'il va, le Seigneur va dire, « Puisque tu dis que tu es riche, etc., etc., hein, et que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. » Ils ne s'en sont même pas rendus compte que le Seigneur n'était plus là. À tel point que le Seigneur est obligé dans sa grâce. Vous vous rendez compte, dans sa grâce, il vient, il revient et dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Voyez ? Je pense à un autre cas, c'est Saül. Alors vous allez me dire, oui, mais Saül, à un moment donné, il va confesser ceci. Regardez, 1 Samuel 28, verset 15. Alors c'est un épisode un petit peu particulier. Il est chez la magicienne, vous rappelez. Il va lui dire, fais-moi monter Samuel. Alors je ne vais pas m'arrêter sur le contexte. Je prends juste ce qui m'intéresse ce matin. Il est dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Et il y avait de quoi, hein? Parce que regardez, les Philistins me font la guerre. Ben, mais ça encore, à la limite, ce n'était pas grave. Mais c'est la suite. Et Dieu s'est retiré de moi. Dieu s'est retiré de moi, il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Dieu s'est retiré de moi. J'allais dire à la limite, lui, j'allais dire à la différence de Samson, c'est qu'il s'en est rendu compte. Mais le Seigneur s'est retiré. Vous voyez ? Mais regardez, vous avez d'autres cas. Hein ? Et là, j'ai pris deux cas connus, mais vous en avez d'autres. Par exemple, dans le livre du prophète Osée. On ne lit pas beaucoup le prophète Osée. Hein, c'est l'histoire du peuple d'Israël, et quand vous lisez, je vous encourage à lire ce livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et il y avait des choses qui n'allaient pas tellement que, regardez ce qu'il est dit, Osée chapitre 5, verset 5, « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. » Et regardez le verset 6, « Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point, il s'est retiré du milieu d'eux. » Dieu s'est retiré du milieu d'eux. Et là, il part de son peuple. C'est grave, quoi. Mais c'est grave. Et vous lirez à la maison, mais vous allez vous rendre compte que pourtant, il continue à faire des holocaustes, il continue à faire tout le, excusez-moi, je vais lire avec mes mots, tout le tralala, il le faisait. Enfin, c'était pas du tralala, mais comprenez, tout le cérémonial, il le faisait. Mais Dieu n'était plus là. Il s'est retiré. Et quand je dis ça, il s'est retiré. J'ai comme cette image. Vous savez, quand quelqu'un se retire de la pièce, quand il sent qu'il n'est pas le bienvenu, je ne sais pas vous, mais quand vous sentez que vous n'êtes pas le bienvenu, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne reste pas là, hein, m'en vais. Hein. Si je sens que je suis de trop ou que quelque part, on s'en fiche, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Enfin, moi, je ne suis pas là en disant, oh, je suis là, tu ne me veux pas, je m'en vais. Hein. Mais le Seigneur, c'est pareil. Hein. Quand quelque part il sent qu'il n'est pas ou qu'il n'est plus le bienvenu à cause de tout un tas de choses, mais à un moment donné, il se retire. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète Osée. Il s'est retiré, voyez. Je me dis, mais c'est terrible parce que c'est le peuple de Dieu et Dieu n'y est plus. Dieu n'y est plus. Souvenez-vous aussi de Judas. Prenons notre exemple. Judas, à un moment donné, il est dit ceci. Luc 22, vous connaissez ces passages, hein. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Et là, regardez. Tu vas me laisser ce verset, on passera à l'autre après. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Si Satan est entré dans Judas, c'est parce que dans son cœur, le Seigneur n'y était plus. Hein. Parce que les ténèbres, ça ne se mélange pas avec la lumière. Hein. Hein, soit dit en passant, un chrétien authentiquement né de nouveau, il ne peut pas être possédé. Il faut que ce soit clair, ça. Vous voyez ? Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des tendances à se trouver des démons et des liens partout, des machins, tout ce que vous voulez. C'est très à la mode aujourd'hui. Mais l'eau, ça se mélange pas avec l'huile. Hein ? Tout à l'heure, bon, bref. Hein ? Mais vous pouvez prendre l'eau et l'huile, vous essayez de les mélanger, vous n'y arriverez pas. Hein ? Et les ténèbres, ça ne se mélange pas avec la lumière. Si Satan entre dans Judas, c'est que le Seigneur n'y est plus dans son cœur. C'est qu'il n'a plus aucune place. Vous voyez ? Il n'y a pas de cohabitation possible. Il n'y a pas de cohabitation possible. Vous voyez ? Et pourtant, Judas, il a cheminé 3 ans avec le Seigneur, il a vu des miracles, il a vu le Seigneur agir. Jésus s'est même servi de lui, puisqu'ils sont partis 2 à 2, ils sont revenus. Waouh, les démons nous sont soumis, tatati, talala. Enfin bref. Vous voyez ? Comme quoi ? On peut venir à l'église, on peut donner sa dîme, on peut prendre la Sainte Cène, et Dieu n'est plus là. Hein. Je parle dans nos vies. Voyez, on peut avoir l'apparence de la piété, on peut avoir l'extérieur, on peut avoir même tout le patois de Canaan, comme on dit, hein, dire merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, et tout ce que vous voulez, et pourtant Dieu n'y est plus. Hein. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Satan entra dans Judas. Et au verset 4, regardez, verset 4, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Vous avez une des raisons de pourquoi, dans son cœur, Dieu n'y était plus. Il alla s'entendre. Vous savez, il y a des choses, quand on veut marcher avec Dieu, on ne peut pas s'entendre avec. Hein. On ne peut pas s'entendre avec, on ne peut pas cohabiter avec. Ce n'est pas possible. Parce que, à un moment donné, Dieu est patient, il est plein d'amour, il est miséricordieux, là, à la colère, riche en bonté, on est d'accord. Mais à un moment donné, Dieu se retire. Quand on cohabite avec des choses que Dieu n'approuve pas, quand on sait qu'on en est conscient, mais qu'on fait avec, qu'on s'entend avec, qu'on s'accoutume avec, et qu'on se dit, ma foi, mais à un moment donné, Dieu se retire. Je crois que ça c'est important de le réaliser. Je sais bien que ce n'est pas des choses qu'aujourd'hui, on préfère entendre autre chose, mais il faut qu'on en soit conscient, ça. Il faut qu'on en soit conscient. Regardez. Alors là, un autre exemple encore plus fort. Moi, chaque fois que je le lis, j'y fais. Pourtant, c'est des textes qu'on connaît. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, une histoire comme il en arrive beaucoup aujourd'hui. Vous voyez ? C'est une vieille histoire, mais c'est une histoire comme il en arrive beaucoup aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez, là, il s'agit de Moïse. On arrive à l'époque de Moïse. On revient un peu en arrière. Il est dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Alors il s'est marié, on peut supposer qu'elle était de couleur. Est-ce que c'est pour ça que ça ne leur a pas plu ? J'en sais rien. Hein ? Question, ouais, même fin quand même, vous voyez. Et tatati, et tatata, gna 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 gna. Vous voyez, ouais, t'as vu la femme qu'il a pris, t'as vu le mari, tatati. Ouais. Et allez. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit une histoire comme il en arrive tellement aujourd'hui. Là, il s'agit de. Bon, ben, il s'est marié, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Regardez, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. D'ailleurs, vous remarquerez que dans cette situation, il n'a rien dit. Je disais, je crois que c'était hier matin, qu'il s'est mis en colère plus d'une fois, mais là, pour le coup, il n'a rien dit. Je ne sais pas si moi, j'aurais pu rien dire. Mais là, il n'a rien dit. Mais notez bien. L'Éternel l'entendit. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient que Dieu nous entend dans ce qu'on dit. Il y a d'autres versets, je ne les ai pas pris, que ce qu'on dit sera crié sur les toits. Vous connaissez tous ces versets ? Je me dis, mais est-ce qu'on en est vraiment conscient que Dieu entend tout ce qu'on dit ? Même ce qui est dit en petit comité ou en comité restreint ou entre deux portes, là, que personne n'entend. Mais ça, Dieu l'entend. Hein. Parce que cette histoire, ce n'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis. Mais à mon avis, quand le frangin et la frangine, ils ont parlé sur la femme, ils n'ont pas dû le faire devant tout le monde. Hein. Ça a dû être en catimini, dans l'attente, t'as vu la femme qu'il a pris, t'as vu, mais il va pas bien, mais qu'est-ce qu'il fait ? T'as vu en plus, elle n'est pas de notre milieu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Et là où ça m'interpelle, c'est qu'à cause de ça, regardez ce qu'il est dit un peu plus loin, je prends ce qui m'intéresse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Et il s'en alla. Dieu qui s'en va. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, hein ? Dieu qui s'en va. Il s'en alla. Et regardez le verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige, etc., etc. La nuée se retira. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est le Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit. Vous rappelez que dans le livre des Nombres, au chapitre 9, il est dit que le peuple, quand la nuée s'est levée, le peuple partait. Quand la nuée restait, le peuple restait. Et il se dirigeait d'après la nuée. C'est une image du Saint-Esprit, vous voyez. Ben là, l'Éternel s'en alla, la nuée s'en va aussi. Vous voyez. Comme quoi, moi ça m'interpelle, et je me le dis à moi en premier, mon frère, ma soeur, veillons à ce que nous disons, à nos conversations, à tout ce qui sort de notre bouche. On a parlé de prendre garde à notre bouche dimanche dernier, mais j'y reviens, vous voyez, ça se complète. J'y reviens parce que à force, à un moment donné, Dieu se retire. Quelqu'un qui fait que critiquer, qui fait que médire, qui fait que mal parler de l'un, mal parler de l'autre, à un moment donné, Dieu se retire. Il est plein d'amour, il est plein de patience, mais il faut qu'on le réalise. Et quand je dis ça, je fais pas ça. Hein.
Je fais ça.
Parce que je suis le premier concerné. C'est tellement facile de parler sur l'un, sur l'autre. Hein. Mais Dieu se retire à un moment donné. Et ce qui m'interpelle, c'est que quand vous faites le parallèle avec le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lui, va dire avec d'autres mots ce qui s'est passé là. Quand il dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit pour que la nuée, comme dans l'Ancien Testament, ne parte pas. » Voyez ? N'attristez pas le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit est attristé à force, il s'en va. Il s'en va. Et regardez, la suite, ben vous avez toute une liste là de choses qui font partir le Saint-Esprit. Franchement, vous avez envie que le Saint-Esprit parte ? Moi, je n'ai pas envie, hein, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses, hein, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui... Vous voyez, on sait que c'est par le Saint-Esprit qui se passe des choses. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est qui la puissance qui agit en nous ? C'est le Saint-Esprit. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Mais s'il n'est plus là, vous voyez ? Il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ben, c'est ce qu'on fait les deux là, hein, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mais pourquoi il y a ce conseil qui est là ? Mais parce que si ça ne disparaît pas, à un moment donné, le Saint-Esprit se retire. Alors je sais bien que ce n'est pas un message populaire, ça, mais il faut qu'on en soit conscient. Et je me dis, mais Seigneur, aide-moi. Et quand on voit Job, on l'a vu la semaine dernière, qui a dit, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher, j'ai veillé sur mes lèvres. Hein. D'ailleurs, vous avez des versets qui veillent sur la porte de mes lèvres, mais c'est parce que... C'est important. Ce qui va faire la différence, c'est Dieu avec nous. Dieu en nous, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Mais si Dieu se retire, qu'est-ce qui reste ? On n'est plus un mouvement, on est un monument. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous, voyez ? Et je me dis que c'est pour ça qu'un homme comme David, qui a pas été parfait, a été l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est quelque chose dont il a pris conscience. Vous rappelez que dans son psaume de repentir, oh, il en a fait une belle, hein ? Il en a fait une belle, mais il se repent devant Dieu sincèrement. Et dans le psaume 51, il dit quelque chose, moi, qui m'interpelle. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et il dit à la suite, « Ne me rejette point loin de ta face. » Et regardez, « Ne me retire pas ton esprit saint. » Parce que David, il est conscient que le Saint-Esprit peut partir. Hein. La présence de Dieu en lui, le Seigneur lui-même peut s'en aller. À force de, vous voyez, de garder des choses qu'il ne faudrait pas. Et c'est pour ça qu'il va se repentir devant le Seigneur. Voilà pourquoi, peut-être ce matin, mon frère, ma soeur, si on est conscient que dans nos cœurs, il y a des choses qui ne vont pas, mais avec la grâce de Dieu, repentons-nous devant le Seigneur. Rectifions le tir. Mettons-nous devant Dieu. Ne nous habituons pas, parce que, et comme David, il dit, mais Seigneur, crée en moi un cœur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que j'ai conscience que si je continue comme ça, à garder ces sentiments-là, à garder ces attitudes-là, à garder ce cœur dur, etc., même à un moment donné, le Saint-Esprit va se retirer. Comprenez ? Et ce matin, c'est pas, je ne voudrais pas que ce soit pris comme quelque chose de dur, mais c'est comme une prise de conscience. Il faut réaliser que quelque part, à un moment donné, le Seigneur se retire quand il y a des choses qui vont passer. Pour ça que si ce matin, si peut-être pas que ce matin, mais ça fait moment que le Seigneur met le doigt, ben Seigneur, aide-moi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, mais je viens devant toi parce que je réalise que je peux pas rester comme ça. J'ai besoin de ta grâce. Le Seigneur, il est notre avocat. Il n'est pas notre accusateur. L'accusateur, c'est le diable. Mais il est notre avocat. Il veut plaider pour nous. Pour toi. Mais quelque part, si je fais comme si je n'avais pas besoin de l'avocat, à un moment donné, le Seigneur il se retire. Hein. Alors tout ça pour dire quoi ? J'aurais pu prendre d'autres exemples. Hein. J'aurais pu en prendre des tas d'autres. Le but, c'est pas de nous faire peur ce matin. C'est pas de nous faire peur. Le but, c'est pas de culpabiliser non plus. Le but, c'est pas de vous dire « Waouh !» que vous sortiez en disant « Ce matin, il a plombé dur. Hein. » C'était « Waouh !» ça, il a cartonné. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais le but, en disant ça, c'est de nous amener à réaliser que quelque part, notre plus grand trésor, notre plus grande richesse, c'est la présence de Dieu. C'est ça le but. C'est pas de nous faire peur, de nous amener à dire et puis de se surveiller les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tout ça, t'as vu ce qu'il fait? C'est pas ton problème ce qu'il fait. Mais c'est nous amener à réaliser que mon trésor, ma richesse, mon or, c'est sa présence. Je voudrais tellement que... Parce qu'on peut s'habituer, on vient, là, on vient, on revient, ma foi, et on ne réalise pas que Dieu est là. Et quand on est à la maison, tout seul, dans son lieu secret, mais est-ce qu'on réalise que Dieu est là? Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Je ne sais pas... vous allez me dire que je suis fou, hein. Mais des fois, quand je suis le matin, quand je suis dans mon bureau, là, tout ça, des fois je suis en train de prier, et des fois, j'ouvre les yeux, parce que je pense à ce verset. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Des fois, je me dis, Seigneur, ça serait bien, quoi, tu vois. Je sais qu'il est là, mais vous voyez, c'est notre richesse. Je crois que c'est important de réaliser. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a prononcé le tout accompli? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Le voile du temple s'est déchiré. Mais ce n'est pas anodin, ça. Depuis le haut jusque vers le bas. Mais ça a une signification tellement forte. Pourquoi? Parce que jusque-là, la présence de Dieu, l'accès à la présence de Dieu, il était fermé. Et seul le souverain sacrificateur ne pouvait se rendre dans le lieu très saint, il n'y a encore qu'une fois par an. Et encore, vous relirez les textes, hein. Je sais bien que tout ça, Lévitique, tout ça, vous devez être comme moi, c'est imbuvable, mais enfin bon. Hein. Mais et encore, quand il rentrait, vous rappelez comment il rentrait? Vous rappelez comment il rentrait? Il rentrait avec son habit sacerdotal, voyez. Et il y avait des clochettes en bas. Il y avait des clochettes en bas, vous vous rappelez? Pourquoi il y avait des clochettes en bas? Pour savoir qu'il est encore vivant. Et quand il marchait, quand on entendait les clochettes, on dit ça va, il est encore vivant. Hein? Si on ne l'entendait plus, eh ben c'est que. Mais le problème, c'est que personne ne pouvait aller le chercher, vous voyez. Mais quand le voile se déchire, c'est comme pour nous montrer que ça y est, il y a un libre accès dans la présence de Dieu. Et on peut venir dans la présence de Dieu. Mais quand je réalise ça, je me dis, mais Seigneur, dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas faire ce que nous, on peut faire. On peut venir dans la présence de Dieu tous les jours, tous les matins, n'importe quand, n'importe comment. C'est pour ça que c'est une joie quand on vient dans la présence de Dieu. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'aime ce texte d'Hébreu, qui est fort, qui est important. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, parce que ce n'était pas le cas jusque-là, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce voile qui a été déchiré de haut jusqu'en bas, c'est, symbolise le corps de Jésus qui a été déchiré. Vous voyez, c'est ça. Regardez. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et encore ce matin, Dieu nous dit, approche-toi, parce que notre richesse, c'est sa présence. Si on n'a pas ça, il n'y a plus rien. Il y a du religieux, le religieux, c'est froid. Quoi. Quand il n'y a pas la présence de Dieu, pourquoi les gens ils fuient les églises? Parce que c'est religieux, c'est froid, c'est impersonnel, vous sortez comme vous êtes rentré. Mais quand vous venez dans un endroit quel qu'il soit, même si l'endroit, il n'est pas terrible, hein, il peut y avoir... Hein, je me souviens quand on était à l'école biblique, ça remonte à presque 30 ans, mais les pasteurs, les profs qu'on avait à l'époque, qui étaient des pasteurs, qui étaient des pionniers du mouvement. Alors je parle d'Henri Picavet, si ça dit quelque chose à certains, Henri Picavet et d'autres, hein, Monsieur Pinguet, etc. Des vieux de la vieille, hein, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect. Hein. Ils nous racontaient les débuts, ma mamie, les salles dans lesquelles ils étaient, avec des rats qui passaient au milieu, Hein, ils étaient en train de chanter les cantiques, vous aviez les souris qui passaient au milieu. Hein, vous entendiez les bruits de la chasse au dos du voisin au-dessus et tout le reste, je ne vous explique pas. Ils vous racontent ça. Je me souviens même du frère Picavé qui disait qu'il faisait des réunions dans un arrière-bar d'arrière-boutique de bar, derrière. Et il disait, nous, les seuls versets qu'on avait au mur, c'était Pastis 51. Avec ça, c'était pas Psaume 51, c'était Pastis 51. Avec des versets comme ça, vous allez vous convertir. Hein. Mais il y avait la présence de Dieu. Et il disait là, des hommes et des femmes se convertissaient, se repentaient, des malades étaient guéris, il y avait des choses qui se passaient, il n'y avait rien, le lieu il n'avait rien, mais il y avait la présence de Dieu. C'est ce qui fait la richesse, c'est la présence de Dieu. Et on doit tout faire, en tout cas quand je dis « oh, je m'y mets dedans », pour la préserver, Seigneur, mais ta présence c'est mon or, c'est ma richesse, c'est ce que j'ai de plus précieux. Après le reste, ouais, Seigneur, mais ta présence, c'est le ciel pour moi, comme on l'a chanté. Voyez. Mais si tu t'en vas, comme on l'a vu dans tous ces exemples, mais il reste quoi ? Il reste quoi ? Je pense à, ça le dernier texte qu'on va prendre, je pense à, dans l'Ancien Testament, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui, à un moment donné, je ne sais pas ce qui lui prend, qui lui passe par la tête, comme quoi la folie de l'homme. Hein. Il fait une statue et puis il dit aux trois amis de Daniel, vous allez vous prosterner, et puis eux, ils ne veulent pas, évidemment. Daniel chapitre 3. Et puis il les envoie dans la fournaise. Vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire. Et là, rappelez-vous. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. C'est quand même bizarre. C'est lui qui est dehors et qui est effrayé, et les autres dedans, ils... Le monde à l'envers, vous voyez ? Regardez. Et il se leva précipitamment, il prit la parole. Alors, et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Ben certainement. » Ils sont en train de lui dire, « Ben c'est toi qui les as mis. » Et regardez, verset 25, il reprit et dit, eh bien, alors, je me suis posé la question, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Je me suis dit, comment il a vu ça ? Est-ce que Dieu lui a donné un songe ? Je ne sais pas. Mais certainement, Dieu. Vous voyez ? Je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et regardez, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Le Seigneur était avec eux dans la fournaise. Et là, j'aimerais peut-être m'adresser à des frères et des sœurs, peut-être, qui passent par la fournaise, quelle qu'elle soit. Fournaise familiale, peut-être c'est difficile dans ta famille, fournaise financière, peut-être financièrement sous-mentier comme ça. Peut-être, je ne sais pas moi, la maladie, une fournaise. Le plus important dans ta fournaise, c'est que Dieu soit avec toi. Ce n'est pas la fournaise qui est importante. Depuis combien de temps et ceci et tout ce qui tourne autour de ça. C'est pas ça qui est important. C'est de savoir est-ce que Dieu est avec moi dans la fournaise ou pas. Parce que s'il est avec toi, je ne sais pas ce qu'il fera, mais tu as le plus important. Et je voudrais que peut-être ça puisse encourager quelqu'un. Tu dis en ce moment, oh, mais c'est compliqué, c'est dur, Seigneur, j'ai des luttes, j'ai des combats, j'ai l'impression que c'est compliqué. Quand je règle un problème, il y en a un autre qui se greffe dessus, etc., etc. J'aimerais te dire que si quelque part dans la fournaise, le Seigneur est avec toi, et puis ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, nous on n'en est pas forcément conscient, mais les autres autour, ils en sont conscients. Hein? Je vois Nebuchadnezzar. D'ailleurs, je ne sais pas, ça, je ne l'affirme pas, mais ça c'est chapitre 3. Et chapitre 4, vous avez la conversion de Nebuchadnezzar. Je suis convaincu que quand même cette affaire-là, ça a joué un peu, vous voyez. Quand ce qu'il a vu et qu'il les a vus sortir indemnes de là-dedans, ça a quand même dû toucher son cœur, vous voyez. Ça a dû toucher son cœur, vous voyez. Le plus important, quelle que soit la fournaise par laquelle tu passes, c'est que Dieu soit avec toi. Maintenant, si Dieu n'est pas avec toi, alors là, tu as un problème. Là, tu as un problème. Et c'est pour ça que c'est important. Et de faire un bilan ce matin. Et je voudrais terminer par là. Ce matin, c'est quelque part ce message, le but, c'est, en posant la question, c'est quoi le pire pour un croyant ? Le pire pour un croyant, c'est que Dieu ne soit plus là. C'est que Dieu se retire. De faire un bilan, de se dire, mais... On n'est pas parfait, on est d'accord avec ça. On a vu hier matin, Dieu ne nous demande pas la perfection, parce qu'il sait très bien ce qu'on est. Mais par contre, il nous demande d'avoir des bonnes dispositions de cœur. Vous voyez ? Mais est-ce que Dieu est avec moi ? Et si j'ai des choses à régler, s'il y a des choses à mettre en ordre, mais il faut que je le fasse. Parce qu'à un moment donné, Dieu est plein de grâce, et plein d'amour, et patient, mais à un moment donné, il se retire. Et à un moment donné, vous savez, Dieu se retire lentement. Mais il se retire. Et le but, c'est pas de nous faire peur, c'est pas de nous mettre une pression en disant oulala. Non, non. Mais le but, c'est de réaliser que la présence de Dieu, mais c'est notre richesse. On peut se planter, on peut se tromper, mais tu viens devant le Seigneur et tu te repens devant Dieu. Tu ne cherches pas des arguments pour dire « Oui, mais c'est, je fais ça parce que ceci, parce que cela. » Mais qu'importe pourquoi tu le fais. Si Dieu ne l'approuve pas et tu peux lui dire ce que tu veux, il ne l'approuvera pas. Mais Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux mettre en ordre ce qu'il y a à faire, parce que Seigneur, ce que je réalise, c'est que ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est ce que j'ai de plus précieux. Parce que je pense à David dans le psaume 23. Tout à l'heure, je parlais dans la fournaise, les trois amis de Daniel. Dieu était avec eux, mais rappelez-vous ce que dit David. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Vous voyez, la présence de Dieu, tu es avec moi. C'est ça le plus important, tu es avec moi. C'est pas non parce que j'ai bien cotisé, donc j'aurai un superbe enterrement, j'ai bien cotisé. Non, non, non. Tu es avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ce matin, c'est l'occasion. Ça fait, je me rends compte d'une chose, en disant le ciel, ta présence, c'est le ciel pour moi, notre or, mon argent, c'est sa présence dans ma vie. Moi, je réalisais une chose, je réfléchissais à ça, c'est que finalement, tout ce qui est précieux, en général, c'est fragile. Vous avez remarqué? Tout ce qui est précieux, qui a de la valeur, on dit « Ouh, attention, hein, oulala hein. !» Une belle porcelaine, moi je ne sers pas. Mais tout ce qui est précieux, c'est fragile. Et la présence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, mais c'est fragile. On ne fait pas n'importe quoi avec. On ne s'amuse pas avec. On ne fait pas ce qu'on veut avec. Sous le couvert de la... Vous voyez ? Non, c'est fragile. Alors Seigneur, je veux en prendre soin de ta présence. Je ne veux pas attrister ton esprit. Si je l'ai fait, je te demande pardon. Seigneur, je veux vraiment réaliser que c'est ce que j'ai de plus important. Et franchement, quand vous passez par des difficultés et que vous avez la paix de Dieu, vous ne pouvez pas l'expliquer. Que j'ai dit, mais comment tu fais pour... Mais comment je fais ? Je ne sais pas. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais parce que vous savez que Dieu est là. Alors bon... Oui, je ne dis pas que quelque part, des fois, mais ben, Seigneur, tu es là, la présence de Dieu. Et si peut-être, je ne sais pas, si peut-être ce matin, Dieu ne parle qu'à une personne, peut-être ne nous cachons pas derrière, oui, mais moi je connais le Seigneur depuis 20 ans, 30 ans. Oui, mais si tu n'es pas en règle devant Dieu, ça peut faire 20 ans, 30 ans, ça ne sert à rien, Dieu se retire. Mais que ce matin, peut-être, si peut-être sans le Seigneur qui met le doigt, mais c'est là, c'est par amour, c'est par amour. Je me tiens à la porte et je frappe. Et ça, c'est un message qui est encore peut-être pour quelqu'un. C'est ce matin, le Seigneur est là, il ne te juge pas, il ne t'accable pas. Mais on a tellement besoin de la présence de Dieu. S'il n'y a pas ça, mais qu'est-ce qui reste? Moi, je ne veux pas être un Samson. Je ne savais pas que l'Éternel... Je ne savais pas. Mais je me dis, mais bon, il y a eu l'histoire des Philistins derrière, mais ça montre que quelque part, il aurait pu continuer longtemps comme ça. Hein, mais Dieu n'était plus là. Vous imaginez? Moi, je n'ai pas envie de ça. Je veux pouvoir avoir de sa présence dans ma vie. Et je voudrais que ce matin, vraiment, on puisse faire vraiment quelques instants devant Dieu, faire un bilan, dire « Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis, Seigneur ? Ta présence, je le chante, on chante ces cantiques, hein, ta présence, oui, c'est formidable, c'est le ciel pour moi, ta présence, c'est, alléluia, dans ta présence, je suis bien, oui, d'accord. Mais est-ce que je réalise vraiment que si j'ai plus ça, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de réfléchir, dire « Seigneur, ta présence est tout ce que j'ai de plus précieux. Et je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas la perdre. Je veux réaliser combien c'est précieux, combien c'est bon pour moi, et combien c'est fragile aussi. Combien c'est fragile. Alléluia. Je me dis que les frères et sœurs persécutés dans le monde entier, quand je vois ce que certains sont prêts à faire pour le nom de Jésus, des fois des kilomètres pour se rassembler, des fois... On prend des coups, on renie le Seigneur, ils ne veulent pas renier le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont expérimenté que la présence de Dieu, c'est le plus important. Et je me dis, mais et moi ? Et toi dans tout ça ? Et toi dans tout ça ? Et moi dans tout ça ? Où est-ce que j'en suis ? Moi j'ai envie de dire, Seigneur, ce matin, je veux, Seigneur, être soigneux avec ta présence dans ma vie. Je ne veux pas m'y habituer, je ne veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je veux être sérieux. Ça ne veut pas dire, être sérieux, ce n'est pas se prendre au sérieux. On comprend ce que ça veut dire, hein, mais Seigneur... Il y a le temps de rigoler, mais il y a le temps aussi d'être sérieux devant Dieu. Et Seigneur, je veux réaliser, Seigneur, que à cause du tout est accompli, j'ai un libre accès dans le sanctuaire. Et je veux en profiter ce matin. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, je réalise ce qu'il t'en a fallu, Seigneur, ce que ça t'en a coûté pour que moi ce matin, pour que nous ce matin, nous puissions rentrer dans le sanctuaire, dans ta présence. Nous y venons autant que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. Mais Seigneur, je veux réaliser que pour toi, le prix a été très élevé. Tes pieds et tes mains percés. Les clous dans tes mains, les moqueries, la couronne d'épines, l'ignominie. Tout ça, tu l'as accepté pour que moi, je puisse goûter à ta présence. Alors Seigneur, aide-moi, aide-nous. Et si Seigneur, il y a des choses encore qui ne sont pas ce que ça devrait être, alors Seigneur, je veux m'humilier devant toi. Je veux reconnaître, Seigneur, ma faillibilité, mes imperfections. Et te dire, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, ou peut-être à plusieurs, ne te laisse pas accuser par le diable. Maintenant, s'il faut te repentir, repens-toi. S'il faut te repentir, repens-toi. Mais ne laisse pas le diable t'accuser. Viens devant le Seigneur, repens-toi. Et combien le Seigneur va te bénir, va te relever, va te restaurer. Alléluia.